Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Bonjour Ludovic.
Bonjour Muriel.
Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la part de l'habitat dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour ça, on accueille Caroline du CAUE.
Bonjour.
Est-ce que tu peux présenter rapidement le CAUE ?
Donc le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. C'est une association qui a été créée en 1977, pendant la loi sur l'architecture. C'est à l'échelle départementale, mais c'est aussi un réseau national. On a quatre grandes missions. C'est le conseil gratuit pour les particuliers, le conseil aux collectivités, un volet sensibilisation, donc du grand public, mais aussi avec des actions en milieu scolaire, et une action sur la formation.
D'accord. Alors, pourquoi parler de l'habitat dans ces émissions sur le réchauffement climatique ? Eh bien, parce que c'est une part non négligeable des émissions, puisque on parle de la construction, hein, des bâtiments, du choix des matériaux qui viennent de plus ou moins loin, qui sont plus ou moins renouvelables, de la consommation d'énergie dans le chauffage, dans la production d'eau chaude, etc. Notamment une grosse part de responsabilité par rapport à l'isolation, on en parlera. Et puis notamment d'urbanisme par rapport à la nécessité des transports dans l'agencement d'une ville, par exemple, ou la quantité d'arbres et le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'économie d'énergie, par exemple. Donc, pour avoir une petite idée, notamment, le chauffage représente plus des deux tiers de la consommation d'énergie d'un ménage, qu'il soit d'origine électrique ou fossile. Il génère des gaz à effet de serre lors des phases de production, de transformation et de transport de l'énergie. En appartement, il est souvent électrique, 80% notamment des nouvelles constructions en 2009, parce qu'il est peu coûteux à l'installation. Mais à l'usage, il revient bien plus cher qu'une autre énergie, gaz ou bois par exemple. Voilà. Est-ce que, Caroline, qu'est-ce que tu conseillerais en matière de chauffage pour limiter la consommation ou l'émission de gaz à effet de serre ?
La question avant tout du chauffage, c'est tout d'abord la question d'isolation, puisqu'avant d'envisager le changement de son moyen de chauffage, il faut avant tout commencer par consommer moins avant de changer de moyen de chauffage. En moyen de chauffage, bon, il faut bien sûr éviter de préférence par rapport au gaz à effet de serre, tout ce qui est fuel, gaz. L'ADEME, qui est l'organisme un peu sur la question d'environnement, pousse un petit peu sur la question électrique. On a aussi le bois qui peut être une très très bonne ressource. Par contre, attention à l'utilisation qu'on en fait parce que ça peut être aussi un émetteur de CO2 dans l'atmosphère.
Oui, et puis d'où vient le bois et comment sont gérées les forêts aussi, c'est des questions qui peuvent être posées.
Exactement. De toute façon, la consommation, elle doit baisser d'à peu près 35% par rapport au Grenelle de l'environnement numéro 1. Ils ont dit que la consommation doit baisser 35% d'ici 2020. Donc ça passe pas forcément sur le moyen de chauffage, mais avant tout sur la question de l'isolation.
Ouais. D'accord. Et comment bien isoler sa maison alors ?
Alors, tout d'abord, se poser la question, comment est faite ma maison ? Donc l'avantage, c'est de faire un DPE, un diagnostic de performance énergétique, dans lequel vous aurez en plus l'étiquette donc énergétique, mais l'étiquette climat, qui vous indiquera aussi les gaz d'émission à effet de serre. Ça marche comme l'étiquette énergétique, de G à A. Donc si votre bâtiment est G, il émet beaucoup de gaz à effet de serre. Si votre bâtiment est A, il en émettra beaucoup moins.
D'accord. Est-ce que dans le choix des matériaux d'isolation, il y a aussi une réflexion à avoir par rapport à ses responsabilités d'émissions de gaz à effet de serre.
Tout à fait. Donc, il faut absolument privilégier tous les matériaux que l'on appelle biosourcés. Ça peut être soit des fibres végétales, soit de la source animale, donc laine de mouton, par exemple, plume de canard. Et ensuite, les matériaux recyclés. Vous avez le métis, qui sont des vêtements recyclés. Vous avez la ouate de cellulose, en papier recyclé. Par exemple, sur l'énergie grise nécessaire pour faire les matériaux, on a une différence d'à peu près 9 fois plus importante entre l'énergie grise qu'on a besoin pour la ouate de cellulose et l'énergie grise que l'on a besoin pour le polystyrène extrudé. Sur la plupart des maisons neuves, par exemple, on utilise du polystyrène extrudé et d'un point de vue des gaz à effet de serre, pour la construction et la fabrication et le déplacement de ce matériau, on utilise énormément de gaz à effet de serre.
D'accord. On peut isoler sa maison avec des plumes de canard ?
Oui, ça se fait beaucoup sur les combles, par exemple, pour isoler un vrac. Donc, les combles, le toit, c'est vraiment l'élément essentiel à isoler. C'est à peu près 35% des déperditions énergétiques d'une maison. Donc, l'un des premiers éléments à isoler, c'est la toiture. Les murs viennent après.
D'accord. Au niveau des coûts de ces nouveaux matériaux par rapport à la laine de verre, la laine de roche qui sont utilisés couramment pour les constructions?
Alors, il y a des matériaux écologiques qui sont assez onéreux. Je pense par exemple au liège, qui est un matériau isolant très performant, mais qui est assez onéreux. Par contre, qu'on est sur de la ouate de cellulose ou de la laine de verre, on est à peu près sur les mêmes tarifs.
D'accord. Il y a la laine de bois aussi qui...
Voilà, qui est un petit peu plus chère. Par contre, l'avantage de la laine de bois, c'est qu'on peut aussi l'utiliser à l'extérieur. À la place de mettre un polystyrène, donc qui est nocif pour le gaz à effet de serre, enfin qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, et qui est aussi toxique, parce que quand le polystyrène extrudé brûle, ce sont des vapeurs très toxiques pour les habitants, on peut mettre de la laine de bois en extérieur. Les deux fonctionnent.
D'accord. Donc finalement, peu importe, entre guillemets, le moyen de chauffage, si notre maison est bien isolée, on ne chauffera pas beaucoup et donc on ne polluera pas beaucoup.
Oui, c'est l'idée.
Concernant les chauffages électriques, on en parlait en début d'émission, il y a beaucoup de chauffages électriques qui sont mis en place dans les logements, voire les logements neufs. Les nouveaux chauffages électriques à inertie qui sont sortis à chaleur douce, ça vaut quoi?
C'est quand même beaucoup mieux que les chauffages qu'on a l'habitude qu'on appelle les grille-pains, hein, voilà. Donc il y a des chauffages électriques maintenant qui sont très performants, qui consomment un peu moins, et on a une sensation de chaleur qui est beaucoup plus confortable que les anciens appareils électriques. Donc sur certaines habitations, l'électrique peut être fortement envisagé, mais en utilisant justement ces nouveaux systèmes de chauffage électrique.
Est-ce que maintenant on peut imaginer que voilà, je veux construire ma maison, qu'est-ce que tu peux me conseiller en matière de matériaux si je veux être peu responsable d'émissions de gaz à effet de serre?
Mais comme pour l'isolation, on va favoriser les matériaux biosourcés et aussi les ressources locales. Par exemple, si on construit une maison en maçonnerie classique, on va émettre 10 fois plus de gaz à effet de serre que si on travaille avec un matériau local, du bois, souvent issu de forêts bien gérées, donc on va dire du bois européen, avec des matériaux isolants biosourcés, comme de la ouate, de la paille. Et c'est des matériaux très très intéressants, qui sont pas forcément plus onéreux, puisqu'on peut aussi facilement le construire soi-même. Quand on isole en paille, ça peut être assez simple. Voilà.
D'accord, donc pas plus cher si on le construit, si on met la main à la pâte.
Pas plus cher si on met la main à la pâte, exactement.
D'accord. Et alors en matière d'urbanisme, quelles sont les responsabilités des villes dans la part des transports notamment, ou les besoins de déplacement des habitants? Comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Est-ce que c'est possible?
Tout à fait. L'une des bases en urbanisme, c'est de dire qu'on ne va pas détruire des espaces qui absorbent les CO2, donc les forêts, les prairies, pour construire des espaces imperméabilisés qui, eux, vont pas absorber du coup cette quantité de CO2. Donc l'importance de la végétation est nécessaire dans la ville. Donc l'idée, c'est d'arrêter un petit peu de construire indéfiniment dans des espaces naturels pour conserver déjà le pouvoir d'absorption naturelle de la terre, et aussi de retrouver en ville plein d'espaces verts. L'importance des arbres, notamment, est nécessaire. Il y a une ville au Québec qui s'appelle Sherbrooke, qui a fait une expérience assez intéressante. Ils ont planté l'équivalent de 11 terrains de foot d'arbres dans leur ville, puisqu'ils avaient calculé à peu près l'émission de gaz à effet de serre de leur ville. Donc ils sont passés à une ville à gaz à effet de serre
passive.
Passive, voilà, tout simplement. L'importance des arbres, c'est aussi très important en ville, puisqu'on a des phénomènes qui sont des îlots de chaleur. Bon, en Lozère, on l'aura pas tellement, mais on le voit déjà à Mende. On a déjà 2-3 degrés de plus en ville qu'à l'extérieur. Et souvent, les gens, par exemple, l'été, installent des climatiseurs. Donc, si on avait 5 arbres, eh bien, ce serait déjà un climatiseur en moins. Voilà.
D'accord. On peut aussi, du coup, se poser la question de l'efficacité énergétique qu'il peut y avoir entre un pavillon et un immeuble, par exemple. Est-ce qu'il faut mieux, aujourd'hui, favoriser les habitats réunis ou les habitations individuelles?
Alors, oui, on aura tendance à favoriser aujourd'hui les habitats qu'on appelle groupés. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, les sociologues, qu'il y avait un besoin des propriétaires, hein, et des occupants d'avoir une maison avec un espace extérieur. Et l'immeuble collectif ne se prête pas forcément à cette architecture, enfin à ce besoin des habitants. Donc du coup, on sera sur des maisons groupées, c'est-à-dire des maisons qui sont côte à côte, un peu mitoyennes, avec des jardins de part et d'autre et des espaces collectifs. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie grande ville. Mais en Lozère, on peut tout à fait imaginer un habitat un peu plus dense. On n'a pas forcément la maison au milieu de son jardin avec une grande allée en goudron qui va encore plus manger de l'espace naturel, on peut imaginer un urbanisme qui est un peu plus compact, plus performant d'un point de vue thermique, mais plus performant aussi d'un point de vue naturel.
D'accord, donc c'est essayer de concilier un habitat social, naturel et efficace énergétiquement.
Mais oui, parce que de toute façon, quand on parle de mettre des arbres dans la ville, c'est aussi agréable pour le cadre de vie, donc tout doit être pensé ensemble.
Tout à fait. On parlera du besoin de nature dans une prochaine émission. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler aussi du développement des toitures végétalisées ?
Ben oui, c'est un bon exemple de comment amener de la végétation dans la ville. On a donc toiture végétalisée, c'est pas neuf, hein, c'est pas nouveau. On en a sur l'espace événement Amande, mais ça existe depuis très longtemps sur des maisons nordiques, en Islande ou en Norvège. On utilise la végétation comme inertie, comme isolant naturel, mais ça permet aussi d'avoir un bâtiment à biodiversité positive et qui absorbe pas mal de CO2. On peut avoir donc des toitures végétalisées de 20 cm, on a un peu de sédum, c'est des plantes grasses, donc c'est pas très performant, mais on peut avoir des arbres comme à l'espace événement ou des prairies fleuries.
Est-ce que c'est pas plus compliqué en matière de construction ?
Non, maintenant les techniques sont assez bien faites, il y a des kits tout prêts où on met des cassettes plastiques avec les végétations déjà dessus, et ça peut être des végétations qui absorbent l'eau déjà existante, donc on n'a pas besoin d'arroser. Donc le territoire lozérien se prête assez bien à ce type de construction.
Et ça n'amène pas d'humidité ?
Non, ça n'amène pas d'humidité. Si les choses sont bien faites, on met un drain tout simplement, hein, et vous n'avez pas de problème d'humidité. Et surtout les gens qui me posent la question de la neige, au contraire, la neige va rester stockée, la terre va imbiber un petit peu cette eau, et ensuite l'évacuer par des gouttières, comme sur toute construction classique.
D'accord. Donc si on peut conclure sur ces questions de l'habitat et comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est faire attention aux matériaux qu'on utilise, que ce soit dans la construction, dans l'isolation.
Voilà, faire confiance aux ressources locales et biosourcées.
D'accord, être économe en matière de consommation de chauffage et notamment efficace en ayant une bonne isolation.
Oui, il y en a un des comportements aussi adaptés. Voilà, on va pas chauffer sa maison à 27 degrés.
Ok, tout à fait. Et donc en ayant une réflexion un peu globale sur à la fois l'aspect social, environnemental et énergétique.
Voilà, planter des arbres.
Planter des arbres. Merci Caroline.
Merci.